Écrivains du territoire, l'émission qui part à la découverte des arpenteurs et émerveilleurs du monde. Présentée par Anne-Solange Muis, géographe et éditrice.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Écrivains du territoire. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage en Charente et reçois pour en parler avec nous Jean-Claude Guibeau, grand journaliste et reporter au quotidien Sud-Ouest, qui a été lauréat du prix François-Jean Armorin, en 1967, puis du prix Albert Londres en 1972, puis journaliste au journal Le Monde et au Nouvel Observateur. Bonjour Jean-Claude Guibeau, ravi de vous accueillir.
Merci à vous.
Vous venez de publier aux éditions du Ruisseau un très joli livre intitulé « Mes patries minuscules » qui évoque les relations, vos relations à vos territoires qui sont constitués tout autant de lieux que de couleurs, de senteurs, de lumières aussi. Alors pour donner un petit goût de la Charente, je vous propose d'écouter cet extrait musical.
Pour laisser passer une cagouille, vous manquerez plus que ça qui les brouille. Car c'est l'ami des escargots, il y en a plein sous son tape-fagot, de La Rochelle jusqu'à Rouillac, c'est lui le roi des cagouillards. Une douzaine d'huîtres, un verre de blanc, et le Charentais est content.
Jean-Claude Guibeau, ah oui, c'est une chanson sympa, c'est local, on va dire.
Je suis content qu'il ait pensé aux huîtres.
Oui.
Parce que nous ne sommes pas en Charente-Maritime, mais les Charentais sont passionnés par les huîtres, par les coquillages en général.
Oui, il faut quand même, il faut assumer cette géographie, effectivement. Jean-Claude Guibeau, racontez-nous votre enfance. Vous n'êtes pas forcément né en Charente, mais vous y avez grandi, c'est ça?
Oui, comment vous dire, je suis né, mon père était militaire, mon père a fini sa vie comme général, il a fait la guerre toute sa vie, et il avait épousé en Algérie ma mère, qui était, elle, pied noir, qui était une petite bourgeoise, fille de magistrat, etc. Et mon père venait du monde paysan, et du coup, voilà, je suis le produit assez compliqué d'un père charentais jusqu'à l'os, si j'ose dire, et d'une mère pied noir, d'une mère, elle est née à Constantine, ma grand-mère était née à Guelbin, enfin toute la famille de ma mère, ce sont des pieds noirs, comme on dit, c'est-à-dire des Français qui avaient été envoyés pour peupler l'Algérie en 1872, après évidemment la défaite, et quand l'Alsace-Lorraine est devenue allemande. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas fonctionné, à tout qui n'ont pas voulu devenir allemands. Alors on leur a proposé d'aller peupler l'Algérie. Et ma famille maternelle vient de là.
D'accord. Et alors donc vous avez grandi en Charente. Vous y êtes arrivé à quel âge?
Comment vous dire? Je suis arrivé tout de suite parce que c'est mon père qui a pris sa retraite. Je suis un enfant de vieux. Mon père m'a fait, si j'ose dire, il avait plus de 55 ans.
D'accord.
Donc je suis un enfant de vieux, très bien. Ce qui fait que... et mon père a fait la guerre toute sa vie. Il a fait la guerre de 14, figurez-vous.
Ah oui.
Mes copains, c'est leur grand-père qui a fait la guerre de 14. Là, c'est mon père. Dans une histoire assez extraordinaire, parce qu'en fait, c'était un bon élève à Pranzac, ici en Charente, que les professeurs encourageaient à continuer. Alors il a continué, il a fait le collège, ensuite il a fait le lycée à Angoulême, Gaz de Balzac. Ensuite il a été admis pour faire, sa préparation au collège, au lycée Louis. Et il a eu son bac avec mention très bien.
D'accord.
Alors il a fait sa classe préparatoire, il voulait faire naval en fait, il voulait être marin. Et sa vue n'était pas assez bonne, donc il a choisi Saint-Cyr. Et il a fait partie de cette génération incroyable, cette promotion de Saint-Cyr incroyable, qui s'appelait la Grande Revanche. Et la guerre a éclaté quand cette promotion, ils étaient 780, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, on les a réunis à l'école, hein, pour leur dire, bon, il y a cette guerre qui éclate, on va suspendre vos études, rassurez-vous, elle ne durera que quelques semaines, parce qu'on va, on va renvoyer les Allemands à coups de pied dans les fesses. Et en fait, elle a duré 4 ans, et sur les 780, il y a eu 200 survivants, parmi les chefs de section, dont mon père.
Heureux chanceux.
Ensuite, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc j'ai été... tandis que ma mère, comment vous dire, pour vous dire les choses de manière précise et simple, mon père était gaulliste, depuis toujours. Il avait même une correspondance avec le général de Gaulle. J'ai dans mon bureau une photo où de Gaulle décore mon père devant la cathédrale de Strasbourg, enfin très très bien. Et tandis que ma mère était pieds-noirs, était très hostile à de Gaulle.
Évidemment, normal.
les pieds-noirs appelaient de Gaulle la grande Zora. Donc, si vous voulez, j'avais une sœur qui avait 3 ans de plus que moi, Michel. Et quand la guerre d'Algérie a commencé, à la Toussaint 54, j'avais 10 ans et ma sœur 13. Et on a compris que ça provoquerait du Trafalgar dans la famille. Et c'est en fait, ça a fait divorcer mes parents.
Ah oui.
Ça s'est ajouté à beaucoup de choses. Et mon père n'en pouvait plus d'entendre ma mère se moquer de Gaulle, etc. Et ma mère ne supportait pas que mon père ait une correspondance avec le général. Donc, avec ma sœur, on s'est retrouvés séparés. On a été confiés à notre maman, puisqu'on était les plus jeunes. Et puis, là où vivait mon père, qui est la maison de famille, que je suis en train de retaper depuis, qui est à La Rochefoucauld, pas très loin de la maison, elle était en ruine, pratiquement. Et comme ma mère avait refusé d'y habiter, parce que c'était pas bien pour elle, il y avait encore des vaches, c'était une citadine, j'ai toujours, dans ma tête, j'ai une relation psychologique avec cette maison, et je me suis dit, il faut que je la remette à neuf, il faut que je la répare, que je la reconstruise, par hommage à mon père.
Eh oui.
Et je suis tombé sur une nana, ma femme, qui m'a dit, ok, je prends. Et depuis 40 ans, on retape cette maison, quoi, dans la joie, parce que maintenant, elle va bien.
C'est assez joli comme symbole pour cicatriser quelque chose du passé, finalement, cette maison. Un peu.
Oui, il a fallu 60 ans pour que cette cicatrice se referme. Parce que du coup, il était hors de question que je retourne en Algérie. Pour moi, ça avait été le symbole de l'éclatement de la famille, etc. Et j'ai attendu 58 ou 59 ans, je crois. Et j'avais envie de retourner là-bas, au moins une fois. Je n'avais pas de souvenir physique, mais j'avais entendu tellement parler de l'Algérie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la rue d'Isly. Et qu'au bout du compte, un jour, par hasard, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui m'a dit au téléphone, bonjour monsieur, je dirige le centre culturel d'Alger, et je voudrais vous inviter à parler de votre dernier livre. Je me souviens plus de quel livre il s'agissait, et tout d'un coup je me suis dit, c'est bon, on y va.
Et oui, c'est le moment.
Et je suis retourné en Algérie, et je pensais pas qu'à mon âge on pouvait avoir une émotion aussi forte que dans le taxi entre l'aéroport et le centre-ville, je pleurais dans mon coin. Et du coup, bon, j'ai écrit une chronique qui a été reprise pas mal, qui s'appelait la fin d'une déchirure, où je racontais mes retrouvailles avec l'Algérie, qui ont été magnifiques. Et cette chronique m'a valu de retourner en Algérie. On m'a demandé plusieurs fois. Je me suis lié de sympathie avec un Algérien, un ami qui a 20 ans de moins que moi, mais enfin qui est un universitaire et tout ça, qui a refait un voyage avec moi. Et donc voilà, j'ai recollé les deux morceaux de moi-même.
Oui, c'est ça, la partie paternelle et maternelle,
voilà.
Finalement.
Voilà.
C'est très bien. Et à quoi ressemblaient, si on revient un petit peu en Charente, à quoi ressemblaient les paysages de votre enfance ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet environnement charentais ?
J'ai vécu, j'en tire une fierté et une joie, j'ai vécu les derniers moments de la campagne d'autrefois, de l'agriculture autrefois qui n'avait pas changé depuis le 19e siècle, c'est-à-dire toutes les traditions agricoles ou les rituels agricoles. On tuait le cochon, il y avait une journée de travail, il y avait les battages, on était au battage. On faisait les noix aussi, on cassait les noix avec un maillet. Tout le monde se rassemblait pour casser les noix, pour faire de l'huile de noix, qui était un grand... Donc j'ai énormément de souvenirs magnifiques de ça, quoi. Et j'ai une enfance qui a baigné là-dedans, Ce qui fait que progressivement, elle m'avait fait un peu oublier qu'il y avait la moitié algérienne. Et quand j'ai recollé les deux, ça a été le bonheur.
C'est plutôt pas mal.
Sauf que je me suis du coup énormément intéressé à la Charente.
Et alors pourquoi finalement ? Pourquoi cet intérêt pour ce territoire ? Parce que j'ai quand même l'impression que dans votre histoire, vous en avez traversé un certain nombre des territoires et vous êtes attaché d'ailleurs à un certain nombre de territoires.
Bah, oui, comme j'ai été journaliste d'abord à Sud-Ouest, évidemment, mm-hmm. et puis ensuite au Monde, et puis ensuite au Nouvel Observateur. Et pour tous ces trois journaux, j'étais un peu considéré comme... J'étais préposé aux catastrophes, quoi. Et parmi les catastrophes, il y avait beaucoup de guerres.
Mm, bien sûr, oui.
Et ce qui fait que j'ai couvert pas mal de guerres, même... Je n'ai pas compté, mais 25 ou 30 à peu près.
Ouais, c'est énorme, ouais.
Ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec la guerre du Biafra, mm-hmm, mm-hmm. En 68, où je suis allé... Et puis ensuite, il y a eu tout le reste, quoi. Je me suis occupé des guerres en Éthiopie et en Afrique, pas mal de guerres. En Afrique, en Éthiopie, en Somalie, etc. Puis au Proche-Orient. Mm-hmm. Je me suis occupé des guerres du Proche-Orient, la guerre du Liban, la guerre du Kippour en Israël. Je suis retourné en Israël souvent, etc. La révolution iranienne. Mm-hmm. Et puis après, j'ai été plus loin. Et je me suis en effet passionné pour la guerre du Vietnam.
Ah, oui.
La guerre au Laos. La guerre au Cambodge. Donc j'ai été en effet... et j'ai eu une passion pour ce métier, alors qu'au départ, j'étais à l'université de Bordeaux. J'étais tombé dans les bras, si j'ose dire, d'un professeur formidable, qui était un protestant, Jacques Ellul.
Ah oui, bien sûr, Jacques Ellul.
Donc je suis un enfant de Jacques Ellul. Et Ellul m'avait encouragé, etc. Et puis j'avais donc passé 4 ans de licence... plus 2 ans de... On n'appelait pas ça les masters, on appelait ça les diplômes d'études supérieures, oui, les DESS. J'en ai passé 2. Et il fallait ensuite 3 ans pour préparer la grègue. Je voulais faire l'agrégation de droit, et plus exactement de sciences criminelles. Et puis est arrivé, entre les deux, mai 68. Mmh. Et depuis le début, par orgueil, je payais mes études pour ne pas dépendre de mes parents. Mmh. Par vanité ou par orgueil, j'en sais rien. J'ai pas voulu recevoir un sou de mes parents et j'étais pigiste à Sud-Ouest pour payer mes études.
Très bien.
Alors, ça a duré 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai beaucoup bossé. Et puis, je me suis lié avec Jacques Ellul. Et en fait, il voulait me prendre comme assistant pour préparer la grègue. Et ça a été impossible à cause de mai 68. Et donc, au lieu de devenir
agrégé,
je suis devenu journaliste et reporter.
Ce qui est plutôt pas mal aussi.
Hein. Je n'ai pas regretté.
Non, j'imagine. On va écouter un extrait musical avant de parler un peu plus précisément de votre livre. Écoutons.
L'enfance, qui peut nous dire quand c'est fini ? Qui peut nous dire... Quand ça commence, c'est rien, avec de l'imprudence. C'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre infiniment. Infiniment de vivre à remonter le temps, de déchirer la fin du livre. L'enfance qui se dépose sur nos rides pour faire de nous de vieux enfants. Nous revoilà jeunes amants, le cœur est plein, la tête est vide, l'enfance
Quel bon choix.
Oui, on vient d'écouter un extrait de cette très belle chanson de Jacques Brel, L'enfance. On va parler un peu plus maintenant de...
Il a fait une autre chanson sur l'enfance.
Oui,
sur la sienne.
Mon enfance. Absolument, tout à fait.
Mon enfance, pas ça.
Ouais, exactement, qui est très belle aussi. Hein. Mais bon, toutes les chansons de Brel sont magnifiques. On aurait pu toutes les mettre. Et je crois que c'est un artiste que nous aimons bien tous les deux, d'ailleurs. Donc, voilà. Les premières lignes que vous écrivez dans votre livre, Jean-Claude Guibaud, sont celles-ci. Je les lis pour nos auditeurs. « Je ne suis ni parisien ni provincial, voilà la vérité. Chacun d'entre nous cherche le mode d'organisation de sa vie qui lui corresponde le mieux. J'ai cru trouver le mien depuis bien longtemps en n'étant ni vraiment dans la capitale ni dans la France profonde, entre guillemets. » Pourquoi ce choix ? Pourquoi finalement ce choix de territoire ? Est-ce que c'est ce territoire qui est le vôtre et cet entre-deux ? Ou est-ce que c'est un territoire tout simplement qui se constitue de l'ensemble des lieux que vous aimez et que vous affectionnez en particulier ?
Non, il n'y a pas de relation directe.
D'accord.
Non, il y a simplement une relation à mon père.
Oui, ok, très bien.
Et habiter là, réapprendre ce que j'avais vu... avec l'idée d'y faire des enfants, et que mes enfants, mes deux filles en l'occurrence, puissent connaître ce que j'avais connu quand j'étais petit, c'est-à-dire monter à cheval, c'est-à-dire chercher les escargots, chercher, aimer le crépuscule, aimer les couchers de soleil, s'intéresser aux oiseaux, parce que je me suis énormément intéressé aux oiseaux, sans compétences particulières, mais c'est vrai que ça comptait beaucoup, le passage des grues et tout ça. Et puis voilà, c'était... Et puis j'avais besoin de me savoir de quelque part, de manière claire. Parce que j'étais entre la Charente, l'Algérie, et je m'étais attaché au moins pour deux pays, à deux pays, en faisant mes reportages, le Vietnam et l'Éthiopie. J'étais tombé amoureux de ces deux pays... J'ai failli épouser une Éthiopienne, d'ailleurs, à un moment donné. Et voilà. Et puis, il fallait que ça soit plus précis. Et je me suis dit, il faut que tu deviennes Charentais davantage encore.
Vous aviez quel âge quand vous vous êtes dit ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec la maturité ou c'est quelque chose que vous avez senti déjà dès l'enfance ?
Oui.
Dès l'enfance, vous
je
avez...
tenais des carnets que j'ai retrouvés en rangeant la maison. Et c'est vrai qu'en 61, je crois, et je devais avoir... Quel âge j'avais ? Je suis né en 44, j'avais 24 ans, même pas. Non.
En 61, oui, c'est ça. Enfin, à peine, effectivement, même pas,
non, même
pas 20
j'avais
ans.
J'avais 18 ans, quoi. J'ai trouvé des notations... Je faisais toujours des carnets à vivre un jour aux défenses. Ça s'appelle les défenses, la maison. Non, ça tournait dans ma tête depuis longtemps. Et puis l'amour de l'endroit, quoi, l'amour. Puis la joie de voir revivre cette maison, quoi. Honnêtement. Et du coup, comme j'avais fait un petit peu d'école communale dans le coin, quand ensuite je suis revenu avec ma femme, qu'on s'est installé, j'étais pas en pays étranger, c'est-à-dire que les gens autour de moi, j'avais été à l'école avec eux. Et les artisans, par exemple, je les connaissais, je les tutoyais, le garagiste et tout ça, j'étais chez moi, quoi.
Oui, c'est ça. Oui.
Et j'ai eu une femme qui a été formidable, Catherine, parce qu'elle était savoyarde. Et on s'est connus en 81, on s'est mariés en 82. Et quand on s'est connus, en discutant... elle m'a fait comprendre qu'elle était d'accord pour prendre cette baraque avec moi sur son dos, quoi.
Ouais, c'est bien un joli projet à deux, finalement.
Oui, puis elle a fait ça d'une manière très drôle, très amusante, parce que je l'avais amenée un jour à la maison, évidemment, en voiture, après avoir obtenu l'autorisation de sa famille, de sa mère notamment. À l'époque, elle venait d'avoir 19 ans. Moi, j'en avais 17 de plus. Et alors, pour flamber, j'avais pris des classes, des billets de train en première classe et tout ça. Donc, elle s'est dit... À l'arrivée, elle a été déçue parce que j'avais une vieille Mary toute pourrie. Mais enfin, peu importe. Mais elle a fait une chose... Ça, c'est une idée magnifique. Il n'y a qu'une femme qui peut avoir une idée comme ça. Elle m'a parlé de rien. Et puis, on a passé le samedi. Puis le dimanche soir, il fallait qu'on reprenne le train, quoi. Et puis dans le train, tout d'un coup, elle me voyait, elle n'est pas allée. Écoutez, je voudrais faire un test avec vous. Vous allez me citer une pièce dans votre maison. Il y en a 24. Et je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans.
Ah, ça, c'est joli, oui, effectivement.
Alors je lui ai dit, bah, écoutez, la troisième chambre à partir de la façade qui donne à l'est et tout ça. Elle m'a dit, oui, il y a un lit comme ça, il y a une table de nuit comme ça, etc. Elle m'a bluffé, ça voulait dire je prends, quoi. Et elle a été courageuse.
C'est une vraie inscription territoriale, finalement. Alors ça rejoint un géographe que je crois vous avez rencontré, qui s'appelle Joël Bonnemaison, que j'aime énormément aussi, qui m'a beaucoup inspiré moi-même en tant que géographe, et qui écrit « Toute identité présente un lieu avec des lieux qui sont aussi des cœurs ». Donc ça rejoint tout à fait vos propos que vous venez de mentionner, notamment par rapport à votre épouse. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi, ces territoires qui sont d'abord des territoires de l'affect, des territoires amoureux finalement ?
Bien sûr. Puis il faut savoir pourquoi Joël disait ça.
Oui, alors racontez-nous ça, ça c'est intéressant pour nos auditeurs.
C'est une idée extraordinaire. Joël était un géographe, jeune, peu connu, etc., qui travaillait pour l'Orstom. L'Orstom, c'est l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer. Et il avait fait beaucoup, il avait travaillé son sujet, et il devait faire son terrain, comme on dit, pendant 3 semaines, je crois, ce qu'on appelait les Nouvelles Hébrides, qui s'appelle maintenant la République du Vanuatu. Et au lieu de rester 15 jours, il est resté 4 ans.
Ah oui, super.
Il est tombé amoureux, fou, des Vanuatu. Et surtout d'une île qui s'appelle Tana, qui était le fief des coutumiers, ceux qui ne voulaient pas entrer dans le monde des Blancs, mais qui voulaient garder la coutume. Et il en a fait une thèse comme ça, énorme, que j'ai transformée en livre, avec son accord.
Oh, superbe.
On a fait un livre qu'on a appelé « La dernière île ».
Très beau, ouais.
Il est venu à la maison travailler, etc. Donc et du coup, maintenant, il est célèbre. Il a un amphi qui porte son nom. Et ça a été une rencontre, une très, très belle rencontre.
Ouais, ça devait être un homme extraordinaire. C'est un homme que j'aurais adoré recevoir dans cette émission. Malheureusement, il est décédé. Et alors, c'est assez intéressant aussi. Il mentionnait le territoire commence avec le rite.
Oui.
Et en vous écoutant tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler finalement de votre rite, c'est-à-dire la chasse aux escargots, le fait que vous alliez, traire la vache ou ramasser telle ou telle chose. C'est ça, dans le territoire que vous aimez aujourd'hui, il y a encore cette notion de rituel que vous appliquez ?
Oui, mais à ma façon.
Alors, racontez-nous ce rituel.
Parce que le hasard a fait que dans ma vie, enfin dans mon travail, Jacques Fauvé, le directeur du Monde, un jour m'a dit, il fallait que j'aille en Polynésie, parce qu'il y avait une histoire politique sur les essais atomiques et tout ça. Et il ne voulait pas qu'on envoie quelqu'un, parce que c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber qui organisait son cirque. Et puis il a appris un jour qu'il y aurait eu un envoyé spécial du Figaro. Alors Fauvé m'a appelé dans son bureau, il m'a dit « Guilbeault, vous partez demain, c'est pas possible, il faut que le monde y soit ». Mais il m'a dit « Vous savez, comme le billet coûte très cher, vous n'allez pas faire que la Polynésie française, je vous donne 3 mois, vous restez 3 mois dans le Pacifique, et vous me faites un livre sur tous les territoires du Pacifique ».
Génial.
Et j'ai fait un livre qui s'appelait « Voyage en Océanie », et je vous parle de ça parce que j'ai appris, et ça m'a profondément changé intérieurement, dans l'Océanie, il y a 2 rites fondamentaux, qui expliquent toute la culture polynésienne, mélanésienne. Il y a 2 rituels qui sont très importants. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la fenoa. La fenoa, c'est l'endroit où on est né, le lieu. Et il y a encore cette tradition qui, quand un enfant naît, on enterre le placenta de sa mère là où il est né.
C'est génial, oui.
Et le fenoa, il faut, quand on est très attaché à ça et à ce rite, on essaie d'y revenir une fois par an. Et c'est la raison pour laquelle, en Océanie, la plus petite île a sa compagnie aérienne. Parce qu'il y a une clientèle captive, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est un rite, le fenoa, la patrie. Mais il faut aussi que la patrie ne soit pas une prison. Alors le deuxième rite, qui est encore plus important, c'est le départ. Et le départ de la pirogue, c'est un départ... Quelquefois, c'était des départs dangereux, parce que les Maoris ont parcouru le monde avant tout le monde, quoi. Et donc le départ. Donc la vie se joue entre l'attachement au fenoa et le départ, c'est-à-dire entre le local et l'universel.
Ouais, c'est très beau, ouais.
Et il gère ça de manière magnifique. Et j'étais tellement habité par ça qu'avec ma femme, on avait publié un écrivain portugais qui s'appelait Miguel Torga.
Ah oui, bah oui, très bien, Torga. Oui.
Et j'avais trouvé dans son livre, qui s'appelait Portugal, j'avais trouvé une phrase magnifique. Il avait dit « L'universel, c'est le local moins les murs.
» C'est très beau, oui. Hein? Magnifique. Tout à fait, c'est tout.
Alors,
à fait
ces ça. Alors, ces deux rites, c'est vrai que non seulement je les ai intégrés, mais ça a changé ma façon de voir le monde. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé.
Mais ça rejoint d'ailleurs ce que vous écrivez à un moment donné dans votre livre. Vous dites « À l'arrivée en Charente, le premier soir, je porte encore Paris sur moi comme une odeur, une seconde peau. » Et quand vous écrivez ça, moi j'ai l'impression de retrouver des témoignages d'insulaires justement qui quittent le continent pour retrouver leur île. Et ça me fait penser à un port d'attache finalement. Donc ça rejoint un peu ce que vous venez de nous expliquer sur les îles polynésiennes. Est-ce que pour vous, finalement, la Charente et ce port d'attache, qu'est-ce que ça vous fait de la quitter? Qu'est-ce que ça vous fait de la retrouver?
Comment vous dire? On avait dit avec ma femme, tous les deux, on va passer plusieurs dizaines d'années dans cette maison, voilà, à la faire revivre, mais il ne faut pas que ça soit une prison. Donc, j'avais trouvé une formule que j'ai employée. Il faut une patrie et le courage de la quitter.
Oui, c'est ça.
Il faut l'un et l'autre, quoi. Et donc, c'est vrai que ça m'a... Comme j'ai été reporter et tout, ça m'a jamais été difficile de quitter la maison, ne serait-ce que parce qu'il y aurait, à un moment ou à un autre, un mois plus tard, deux mois plus tard, il y aurait eu cette merveille du retour, quoi.
Oui, c'est ça.
Et revenir chez soi... voir où en sont les châtaigniers, voir où en sont les tilleuls, voilà.
Oui, ça c'est très beau effectivement et ça me donne l'envie de passer à cette dernière partie d'émission. On écoute une chanson qui va vous parler et faire résonance par rapport à vos mots juste à l'instant prononcés.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le
surnom d'un phare. Voilà, on a reconnu la très belle chanson de Georges Brassens, Auprès de mon arbre.
Et est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Oui,
à propos,
je vous en prie.
Non, à propos de Jacques Brel.
Ah, Jacques Brel, donc on revient, bien sûr.
Non, parce
bien sûr.
Qu'il a écrit une phrase dans une chanson que je trouve magnifique et que j'ai réutilisée dans un livre. Il a dit « On traite les poètes de fous ou de nigauds, mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos.
» Excellent. Hein? Surtout pour un journaliste. Je suis bien d'accord. Voilà, bon entendeur. Donc, si on en revient à nos arbres, justement, Jean-Claude Guillebeau, dans votre livre, vous en parlez beaucoup. Hein. Vous parlez des arbres, vous parlez des fleurs, aussi des oiseaux, de la nature en général qui compose de votre territoire et que vous rattachez à ce que vous nommez la mémoire paysanne. Alors, peut-être, ça serait pas mal que vous nous en parliez un tout petit peu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et en quoi, finalement, ça résonne en vous?
La mémoire et la culture paysanne, c'est plus qu'une mémoire, comment vous dire. Là, c'est la chance que j'ai eue de vivre mon enfance, disons entre 3 ans et 12 ans, 12-13 ans, dans cette France d'autrefois, et dans cette campagne d'autrefois. Avec des gens, je me suis assez vite rendu compte qu'ils étaient très cultivés. pas avec les livres, mais avec les choses qui vivent, quoi. Et j'ai noué des relations d'amitié autour de la maison avec des gens que c'est moi qui posais des questions. Et j'ai beaucoup appris concernant les arbres, concernant les animaux, concernant les lièvres, concernant les perdreaux, concernant les rapaces. Et donc, j'avais le sentiment, j'ai d'ailleurs écrit une chronique là-dessus, quoi. J'avais l'impression que c'était eux, les gens cultivés, et pas moi, le docteur en droit et tout ça. Donc, j'étais sensible à cette culture concrète,
du territoire,
à cette tradition. Et par extension, j'ai toujours été aussi captivé par la culture ouvrière. Il y a une vraie culture ouvrière, forte, qui est en train de disparaître, avec des traditions, avec des fidélités, avec des loyautés, etc. Et je suis très ému de ces différentes cultures, quoi, qui sont toujours une richesse, et qui ont produit, aussi bien la culture ouvrière que la culture paysanne, qui ont produit des poèmes, des chansons magnifiques.
La connaissance, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Et vous écrivez encore aussi dans votre livre, et ça c'est une phrase qui va parler à plus d'un d'entre nous, « Le monde est grand, mais nos patries sont minuscules », et c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage. Vous avez beaucoup voyagé, vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, un peu partout dans le monde, notamment quand vous étiez grand reporter et correspondant de guerre pendant 26 ans, couvrant de nombreux conflits. Est-ce que ce monde parcouru a renforcé en vous l'intimité de certains territoires ? Est-ce que, du coup, ça vous a, je dirais peut-être par cette connaissance du monde dans sa globalité, renforcé ce niveau local dont vous parliez tout à l'heure, et donc cette intimité territoriale ?
Oui, mais je le dirais à ma façon, pardonnez-moi, je crois que ça a surtout renforcé quelque chose, je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Je suis d'un tempérament joyeux. Et j'aime beaucoup la joie, j'aime beaucoup le lever du soleil, j'aime beaucoup le matin, etc. Et du coup, voilà, souvent, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Les années orphelines » sur mai 68, 10 ans après, et j'ai écrit d'autres livres, et assez souvent, j'ai été interviewé par des confrères, et très souvent, on m'a posé la même question. « Mais monsieur Guillebeau, comment se fait-il ? Vous êtes quelqu'un de joyeux, qui a l'air heureux, etc., malgré toutes les guerres que vous avez connues, toutes les tueries, etc. » Alors je les arrête et je leur dis « Excusez-moi, vous vous trompez. C'est pas malgré les guerres, c'est grâce aux guerres que j'ai connues. » Je dis « Comment c'est possible ? » Et je leur dis une chose toute simple. Je me suis rendu compte que dans les pires moments, quels qu'ils soient, il y avait toujours des gens qui restaient debout, qui ne se décourageaient pas et qui ne se pliaient pas.
C'est vrai.
Il y avait toujours des gens que j'ai toujours appelés les sentinelles du désastre, quoi. J'ai vu ça dans les armées, j'ai vu ça en Chine, j'ai couvert la guerre du Kippour en Israël où il y avait des gens formidables, d'autres qui l'étaient moins, et qui avaient un rapport avec la guerre noble. Et ça me faisait toujours penser à une phrase que m'avait dit mon père. Il m'avait dit, tu sais, Jean-Claude, j'ai fait trois guerres, parce que j'ai fait la campagne du Rif au Maroc, j'ai fait la Première Guerre mondiale et puis la Seconde. Je n'ai jamais eu l'idée de haïr les ennemis contre qui je combattais. Ça paraît complètement kitsch maintenant, parce que c'est plus à la mode, quoi. Mais dans sa bouche, ça m'avait toujours humilié. Ça m'avait toujours impressionné.
Oui, ça se comprend. Et c'est vrai que c'est certainement une belle même philosophie de vie, au fond. Mais alors, donc, vous parlez de la joie en fonction du territoire aussi. Vous avez un souvenir très joyeux, comme ça, en lien avec une terre aimée en particulier ? Vous en avez tellement que vous ne pouvez même pas en choisir un ?
Oh, j'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup, oui. Il y a des souvenirs qui me reviennent comme ça, joyeux. Il y en a qui me revient souvent de Djibouti, parce que je suis allé souvent à Djibouti. Et à l'époque, c'était plus commode pour moi de partir en avion à Djibouti, parce qu'à l'époque, il y avait un chemin de fer qui reliait Djibouti à l'Éthiopie. Le voyage durait une journée entière. C'était beaucoup mieux entrer en Éthiopie, parce que pour des raisons aussi d'identité, de visa. Donc j'ai pris l'habitude de m'installer à Djibouti, où il y avait un restaurant assez loin du centre, si on peut parler d'un centre, qui s'appelait La Siesta. Et j'adorais cet endroit qui était hors du temps, qui aurait pu être du 18e siècle, etc. Et puis j'ai connu des Éthiopiens, des Afars et des Issa avec qui je me suis lié d'amitié. Et à un moment donné, je prenais mon train pour aller à Addis Abeba, rejoindre l'Éthiopie. Donc j'ai gardé un fort souvenir. J'ai ramené d'ailleurs Catherine une fois à Djibouti. Ça avait beaucoup changé, évidemment.
Oui, ça a dû changer, ouais, ça, c'est sûr.
Mais
ouais.
En même temps, voilà, donc Djibouti. J'ai aussi des souvenirs très forts du Vietnam, de l'Indochine. Et là, j'y suis allé souvent. Et j'ai eu un jour, nous avons eu une idée avec le photographe Raymond Depardon, qui était un ami. Je lui ai dit, mais Raymond, tu sais, on parle souvent du fait que les gens s'intéressent à un sujet, puis après ils zappent, ils oublient. Regarde, on s'est connus au Vietnam, ça fait 20 ans. Et si on retournait 20 ans après au Vietnam ?
Super idée.
Tous les deux. Donc on s'est fait payer le voyage par le Nouvel Observateur et on a fait un livre. On a passé 3 mois au Vietnam et c'était extraordinaire parce que, comment vous dire, 60% de la population avait moins de 20 ans. Et j'avais dit ça à Raymond, j'ai dit Raymond, tu as bien compris ça. Ça veut dire que dans la rue, quand on se promènera à Saïgon ou à Hue ou à Hanoï, ça veut dire que sur 10 personnes qu'on rencontrera, il y en aura 6 qui n'étaient pas nées la dernière fois qu'on est venu ici. Et alors je disais ça comme ça en plaisantant, et je me suis rendu compte pendant ce voyage que ça a changé quelque chose de fondamental. C'était pas nous qui venions chercher des informations. C'est les jeunes Vietnamiens qui nous en demandaient.
Ah oui, oui, bien sûr. Et oui.
Et ouais, je me suis trouvé dans des situations, incroyables de guerre. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle Quang Tri qui a été détruite pratiquement, qui a connu une guerre terrible. C'est un peu le Verdun du Vietnam, quoi. Et je me suis retrouvé à Quang Tri. Et il y a des gens qui m'ont dit, des jeunes qui m'ont dit, mais vous avez connu la guerre ici? Je dis oui, bien sûr. Vous pourriez nous, on va se balader, il restait des ruines, vous allez nous expliquer la guerre. Donc j'ai fait ça. C'était moi qui enseignais aux Vietnamiens leur propre histoire. Et quand je suis rentré à l'hôtel où j'étais, le Huangjiang Hotel sur la rivière des Parfums, il y avait une dame qui tenait le bar, quoi. Donc j'ai été boire un coup au bar. Et elle m'a demandé, c'est la première fois que vous venez au Vietnam? Je lui dis non, c'est pas la première fois, je suis venu assez souvent. Et elle me dit, et elle me donne une date, est-ce que vous étiez là en telle année? Je lui dis oui, j'étais là parce qu'il y avait une offensive, c'est l'année 72, où les Nord-Vietnamiens avaient lancé une offensive, etc. Vous étiez là? Et vous étiez où? Je lui dis, j'étais à Quang Tri, parce que ça, c'est là où ça chauffait. Elle me dit, c'est le moment et l'endroit où mon père s'est fait tuer.
Ouh là là, ouais.
Alors elle s'est mise à pleurer, puis on est tombé dans les bras. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis autant ému que vous, parce que c'était incroyable, quoi. Elle pleurait pas, mais elle avait du mal à parler tellement elle était émue, quoi.
C'est l'émotion qui nous reste quand même après tout ça, finalement, comme souvenir de tous ces moments-là. Avant de conclure, Jean-Claude Guillebeau, quel est votre territoire, finalement? Est-ce que vous avez un territoire? Comment vous définiriez vos territoires à vous?
J'ai besoin d'un territoire dans ma tête, dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un territoire physique. Et vous voyez, j'habite une maison qui s'appelle Les Défends. C'est assez commun. Et Les Défends, ça ne veut pas dire défendre militairement. Ça veut dire les endroits où le package des troupeaux était interdit. Donc c'est un endroit qu'on tenait à l'abri, quoi. Mais pas, on n'en faisait pas une forteresse, quoi. Et j'aime bien ça. Et quand on est avec Catherine, avec ma femme, quand on s'est installé là-bas en 81, je lui ai dit, écoute Catherine, on va faire un pacte. On va essayer, comme on fera l'aller-retour entre Paris et la Charente, on a fait ça pendant 40 ans pratiquement, on va essayer d'échapper à deux périls. Le premier péril, c'est la frivolité parisienne. Et le deuxième péril, c'est le crétinisme villageois. Qui est une phrase de Lénine, quoi. On va essayer de tenir la bascule entre les deux. Et on a fait ça pas si mal que ça.
Ouais, c'est super, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur ce plateau pour parler avec nous de vos territoires et de vos patries minuscules. Un très beau livre, je rappelle, publié aux éditions du Ruisseau. Et je pense qu'on pourrait d'ailleurs citer cette phrase que vous avez écrite en conclusion, en guise de conclusion. « Chacun, en somme, retrouve un peu d'allégresse dès lors qu'il peut toucher du doigt son pays. » Merci beaucoup Jean-Claude Guillebeau et merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria.
Écrivain du territoire, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.